Et moi aussi, je pars un peu de la même considération de laquelle est partie Anne. C'est-à-dire, aujourd'hui, et ça c'est une question que je pose à Patrick aussi, qu'à toi, aujourd'hui, jusqu'à quel point nous on peut penser qu'il y a un capital fixe, c'est-à-dire quelque chose qui est différent du capital variable et du capital constant, c'est-à-dire quelque chose qui est attaché en capacité machinique de produire, qui soit différent du cerveau, c'est-à-dire de la singularité, de la capacité humaine d'être sur le marché. Alors tu dis, paradoxe, tout ça, ça peut être vrai, mais ce capital fixe est purement virtuel. Et qui le rende active, c'est seulement du capital, son intervention. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que le capital est capte des autres choses qui ne l'organisent pas. L'intérêt du discours entre le travail et la métropole consiste en ça. Autrement, on ne se serait jamais posé ce problème. Consiste dans le fait qu'il y a ce travail qui a absorbé et organisé d'un point de vue intellectuel, cognitif, de service, tout ça, est quelque chose qui a une espèce d'indépendance. Et qui est le passage au-delà du post-formisme, c'est pour ça que je ne suis absolument pas d'accord dans le fait qu'il te dit qu'il y a une organisation du travail tayloriste qui corresponde, du travail cognitif qui correspond à l'ancienne organisation du travail tayloriste. Parce que pourquoi? Pour une raison très simple, que le travail intellectuel, en tant que tel, on ne peut pas le diviser. Le travail intellectuel, en tant que tel, est compréhensif, productif, unitaire, créatif. C'est un travail qu'on ne fait pas, qu'on n'arrive pas à conclure dans le temps. C'est un travail excédent devant le temps. Il est au-delà du temps. Il n'a rien à faire. Le temps, c'est quelque chose qui n'arrive pas. Quelqu'un peut mourir de pensée en pensant. Mais il ne peut pas être limité dans des temps fixés, abstraits. Voilà, donc c'est pas possible. Le taylorisme, c'est l'organisation du temps, de l'action dans le temps. Et là, il y a une contradiction qui est une contradiction fondamentale. Donc, tout ça m'amène à l'autre contradiction que je trouve. Et bien, la première question, c'est plus à toi qui pour avoir une confirmation, non, si tu veux, un approfondissement du discours. L'autre discours, c'est sur la vie, on ne peut pas considérer la métropole une pure externalité. La métropole, c'est la vie. Comment on fait à considérer, d'un point de vue économique, considérer la métropole comme une externalité, je ne sais pas moi. C'est comme considérer c'est comme Gehlenx et Malebranche qui considéraient que les animaux, ils ont fait pas leur mal, non, sans leur donner un coup de pied. C'est la même chose, c'est le même paradoxe. Même une externalité, pas dans le terme marchalien, mais dans l'analyse qu'on fait de l'externalité, c'est quelque chose de vivant, elle aussi. Une externalité, c'est en réalité socio-économique, sociopolitique. Je sais pas, moi, quand j'ai vu, par exemple, naître, je l'ai vu, non, avec mes yeux, non, avec mon expérience, là, l'économie diffusée dans le nord-est italien, c'est-à-dire, c'était une externalité qui devenait une puissance économique. Et bon, je venais ici, il y avait les bureaucrates de l'économie française, du ministère de la ville et de l'économie et du travail qui me disaient, mais donne-nous le modèle dans lequel tout ça s'est développé. Parce qu'on peut peut-être nous-mêmes faire une chose pareille. Non. Moi, je leur donnais, hein. J'ai gagné ma vie en faisant ça. Alors, en faisant l'espion de ce qui s'était passé dans ce territoire, non, dans le nord de l'Italie. J'ai leur donné tous les modèles, ils n'ont pas fait une seule expérience pareille. avec tous les moyens de l'État français qui sont vraiment formidables. Parce que cette externalité, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait commander.